que la fameuse bombe est arrivée, tous les bateaux militaires qui sillonnaient dans la Polynésie prenaient tous les tapas.
Alors Fatuiva, c'est la seule île qui porte un costume en tapas.
Épisode numéro 3. Des savoirs pour ne pas disparaître.
Si on ne se mobilise pas, je pense que d'ici 20 ans ou même un peu plus, je pense que les Wayanas ne sont plus comme les Wayanas d'aujourd'hui. Bon, la peau va rester, ça c'est sûr, mais dans la tête, il n'y aura rien.
Voyage en terre d'outre-mer. Ces oubliés de la République. Une série d'Anne Pastor sur France Inter.
Kanak de Nouvelle-Calédonie, Amérindien de Guyane, Mahorais de Mayotte, insulaires de Polynésie, ces citoyens français ne sont pas toujours reconnus comme ils devraient l'être. Pourtant, ils témoignent d'une richesse unique et inventent un laboratoire d'idées pour demain. C'est la voix des peuples autochtones, la France ne l'a pas entendue pendant des siècles, alors peut-être est-il temps de l'écouter. Direction la Polynésie et la Guyane. En Guyane, au cœur de la forêt amazonienne, les hommes Wayana ont toujours été les maîtres de l'artisanat. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 1000 à vivre le long du fleuve Maroni. Sa tradition se perd et les anciens transmettent leur savoir pour ne pas disparaître. En Polynésie, sur l'île de Fatuiva, les femmes ont réappris un savoir longtemps interdit et oublié, le tapa. Une étoffe faite d'écorce battue et ornée de dessins qui couvrait la nudité des hommes de la naissance à la mort. Aujourd'hui, toute l'île vit au rythme du tapa. Deux peuples, deux continents et un même voyage au cœur des savoirs pour ne pas disparaître.
Je viens ici, j'aime bien venir ici. C'est mon petit papa.
Voilà, alors c'est une sorte de petit hôtel au pied de cet arbre.
Encore au sol. Mais autrement, quand il fait beau, oui, j'aime bien venir ici, dans la... Oh, surtout l'après-midi, là, sous l'arbre, et puis après, je tape. Je fais mon tapa, parce qu'il n'y a plus personne. Je suis toute seule. C'est un moment de recueillement, toi, avec ça, et puis ta pensée, elle... Ouh. Elle vagabonde. Elle part jusque je sais où. Peut-être vers les anciens, mais aussi ce que va devenir ce tapas, cette étoffe que je suis en train de battre. Où est-ce qu'elle va atterrir? Où est-ce qu'elle va aller? Dans quel pays? Voilà.
C'est avec fierté que Sarah Vaki, académicienne, évoque ce tissu végétal fait d'écorce laminée et décoré de motifs marquisiens. Il habillait aussi bien les hommes que les effigies des dieux. Aujourd'hui, Sarah se dit encore protégée par ses idoles de pierre, les tikis, noyés dans son jardin. Il veille, le regard figé, sur la terre de Fatuiva. Ce matin, il a plu. Son jardin expire son haleine d'humus, comme un baiser mouillé de la terre gorgée d'eau. La végétation est luxuriante, l'air embaume de 1000 senteurs. Cocotiers, papayers, citronniers, manguiers et arbres à tapas. Ici, tout pousse à profusion.
Alors à chaque fois, il faut surveiller les feuilles, il faut les enlever. Des mûriers, c'est ça. C'est avec ça qu'on fait le fameux tapas blanc.
Alors on utilise du caoutchouc, on utilise du mûrier, on utilise quoi?
Du banyan. Ah, l'arbre mythique des marquises. On est toujours songeuse quand on est devant la nature, devant les arbres. Parce qu'avant de prendre cet arbre, avant de couper, ben, des fois même, il faut demander la permission à l'arbre s'il y avait bien qu'on la coupe. Hein. Mm-hmm. Quand il est dans le jardin, quand il est au milieu de tous ces arbres-là, ben, moi, à chaque fois, je pense... Comment ils faisaient nos anciens? Qu'est-ce qu'ils faisaient? À chaque fois, je retourne en arrière, aux temps anciens. Toujours en connexion avec les anciens. Parce que tout ça, tout ce savoir-là vient d'eux. C'est le cadeau qu'ils nous ont laissé. Voilà. J'aurais jamais imaginé que les tapas, que cette étoffe, ce ahuenata, serait au Quai Branly, au vu du monde entier. Ah, mais ça m'a donné des frissons et la fierté aussi. C'est vraiment un trésor, hein, ces étoffes, ces ahuenata.
Étoffe qui a été en plus autrefois interdite.
C'était surtout la façon de faire avec cette étoffe qui était bannie, quoi. Parce qu'il n'y avait que quelques parties seulement qui étaient cachées. Et puis, il y avait tout le reste dehors. Alors, j'aurais préféré qu'on mette des robes. C'est vraiment le Monseigneur Le Cléache a été vraiment celui qui nous a boosté pour réveiller. Et Matava, effectivement, veut dire ouvrir les yeux, éveiller, rester éveillé, surveiller votre culture, surveiller votre langue, surveiller tout ce que vous avez.
Ironie de l'histoire, c'est cet évêque breton, Monseigneur Le Cléache, en poste aux Marquises de 1973 à 1985, qui a réconcilié ce peuple avec sa culture. Tatouage, danse, sculpture et tapas ont retrouvé leurs lettres de noblesse. Et comme dans la légende de la création de l'archipel, chaque île a sa spécialité. À Fatouiva, le tapas. Une tradition conservée dans le secret de cette île, la plus éloignée des Marquises, au cœur du Pacifique, à 1500 km au nord-est de Tahiti. C'est l'île des superlatifs. C'est la plus isolée, la plus pluvieuse, la plus petite et la moins peuplée. 600 habitants et 2 villages. De la mer, on ne voit rien d'autre qu'un petit bout de clocher blanc et une rue principale où se niche le village d'Omea, dans une étroite vallée verdoyante. À l'accostage, on sait qu'on est en France. Une cabine téléphonique trône à quelques mètres de la mer, voisinant avec ses maisons pastels, d'où s'échappe ce son, qui est la carte d'identité de Fatouiva.
Chez les Marquisiens.
C'est le Batoa.
En Polynésie.
Ce son-là interpelle celles qui vont peut-être faire ce travail de la fabrication du tapas, ou alors qu'on interpelle, venez, 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 il y a encore ce savoir-faire là, venez apprendre. Tous les jours tu entends ce
tous les jours.
Tous les jours. Va, 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 va.
Aujourd'hui, tout le village vit de la fabrication du tapas. Certaines se sont même offert une belle maison grâce à cette source de revenus. Un tapas peut coûter 3000 euros et atteindre 38 mètres. Un record lors du festival du tapas en 2014. Chacune ici a son style, sa signature et ses secrets.
Je coupe l'arbre à pain. Après, je me présente, c'est Solange. Ma grand-mère et ma maman. Maintenant, c'est moi qui fais le tapin. Ma maman qui a pris à moi d'enlever l'écorce et de taper et de mettre dans le soleil et de peindre.
Alors voilà, on est ici devant cette pierre et il s'agit avant tout de sortir la sève hein, de cette écorce.
Voilà. La sève et puis après de retirer, c'est la partie de l'écorce.
Léonie Caïma, ambassadrice du tapas.
Regarde bien, ça ressemble bien à quelque chose.
Ça ressemble à un cœur.
C'est un cœur et aussi au sexe féminin, le sexe de la femme. Avait son petit pagne là, et c'était juste le sexe qui était caché par ça, et puis juste avec une petite retombée de pagne au devant, et le derrière était découvert. Hein.
Voilà.
C'est tout. Le marquisat était l'ancêtre des strings, et les fesses étaient tatouées là. C'est comme sa carte d'identité.
En fait, quand les missionnaires sont arrivés, petit à petit...
C'est plutôt eux qui ont mis un tabou. C'est-à-dire qu'on ne doit plus utiliser tout ça parce que c'est y avait des croyances, disons, du cannibalisme dans la peau des maquisiens, alors que non.
On n'avait pas le droit de fabriquer le tabac ?
Il fallait faire ça, mais en cachette. Mais maman, en ce temps-là, elle faisait ça pour elle. Et en plus, maman nous disait justement de ne pas toucher. Mm-hmm. Elle nous faisait aussi la leçon pour dire, si vous touchez, vous allez avoir les mains comme des mains des lépreux.
Finalement, vous avez entre les mains un trésor ?
Oui. C'est le trésor de nos ancestrales.
Est-ce que vous pouviez penser qu'un jour, Fatou Iva vivrait de l'artisanat et du tapas ?
Quand j'ai vu les mamans préparer le tapas et puis partir sur des bateaux militaires pour vendre ces tapas aux militaires, pour moi, ça m'a interpellée. J'ai dit peut-être qu'un jour, le tapas serait le trésor de Fatou Iva.
Maintenant, c'est fini. J'enlève la peau. Voilà. Après, je prends le bâton, on appelle le toa.
Parfois, elles se mettent ensemble pour travailler le tapas quand c'est les fêtes. Mmh. Alors, elles font des petits chants. Ben, ça a rencontré justement la danse de l'oiseau. La symbolique de cette danse, parce que l'homme et la nature, c'est un mariage. Parce que l'oiseau, pour les marquisiens, c'est pas un prédateur, mais c'est plutôt l'oiseau qui nous apporte souvent des messages. Quand les anciens voient un oiseau venir sur un arbre à côté de la maison et qui chante, ça veut dire attention, il y a un message.
Hina! Eh, Hina!
Alors qu'on est avec Solange, Mareva arrive pour demander un tapas, quelques motifs. Cette entraide, ça arrive assez souvent.
Ah oui, entre femmes et entre cousines. Parce que Solange et Mareva, ce sont deux cousines. Et voilà, Mareva vient à la rencontre de Solange pour ce partage de ce savoir-faire et pour remettre le motif sur un tapas.
Alors, chaque famille, évidemment, a son tapas. Chaque famille a ses motifs fétiches. Le vôtre, c'est lequel ?
À moi, c'est le paekaha avec le tortue.
Le paekaha, c'est le motif qu'on a gravé dans les cailles de tortue. Voilà, un des paekaha. C'est souvent le visage qui est reproduit.
Alors effectivement, voilà. Là, c'est une sorte de boîte à trésors. Vous sortez vos motifs.
Voilà, toujours la tête. Et ça arrive des fois jusque-là.
Voilà, on appellerait ça, en cinéma, on appelle ça le plan américain.
Le plan américain, voilà.
Alors
voilà.
Cette tête, on remarquera les yeux.
Les yeux grands ouverts.
Pourquoi ?
Parce qu'il est toujours sur ses gardes. Le marquisien a l'habitude d'être sur ses gardes, à chaque fois. Donc il écarquille les yeux, il fait des gros yeux, tout ça, pour voir où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, qui est-ce qui est devant moi. Position d'un homme en alerte. Voilà.
Et
qui,
puis,
qui est sûr de lui.
Qui est sûr de lui, et puis il ressemble un peu au Tiki, qui est une sorte de protecteur pour vous.
Voilà, c'est le protecteur de l'île, le Tiki.
Voilà, alors Maëva est concentrée, elle est en train d'installer le motif sur ce tapas.
Mais il y a du charbon ?
Ah,
ok. C'est elle qui va faire.
Et parfois, il y a celle qui bat et celle qui dessine.
Voilà. Si c'est moi, c'est elle qui peint les tapas. C'est moi qui tape, c'est Léonie qui parle.
Entre cousines.
Bah oui, puisque toutes les trois, voilà. vous êtes des cousines.
Voilà.
Et voilà, et on accompagne Maëva qui est venue chercher un tapas, des motifs qu'elle va présenter à toute Anna, qui est la directrice du musée, et ensemble elles vont mettre en place cette exposition et les costumes pour le prochain festival.
Bonjour.
Ça va?
Ça va. Donc on va se mettre ici. Mare maman.
Moi, c'est Toutana Tetouani Peters. Et donc, je suis native de Omoa, qui est la grande vallée de Fatuhiva. Et je fais partie de la tribu des Anainoa. Sur le moment, je n'avais pas du tout envie de faire du tapas. Et donc, en allant dans une vallée de l'autre côté de l'île, j'ai découvert une petite pierre à tapas. Voilà la première offrande que la terre me fait. C'est là vraiment j'ai eu envie de faire du tapas.
Et ça, c'est votre pierre?
Oui, comme pierre à tapas. Et donc, moi, j'ai appris par la belle-mère de Léonie, qui est Tehoka, ouais. Parce que c'est son nom, on va dire, de guerrière.
Aujourd'hui, c'est vous qui gardez un peu ici tous ces savoirs et vous avez à cœur de transmettre à votre tour, d'inviter des expertes comme Maëva à venir et à continuer à vous enseigner.
À m'enseigner, je reçois aussi ma part d'enseignement et en retour, je donne ce que je sais. L'initiatrice, on va dire, du tapas, c'est la déesse Hina. Pouf, elle s'est dit, elle va monter là-haut, hein, elle va aller un peu déranger les dieux là-haut. Elle battait du tapas pour les dieux. Et puis, il est arrivé un moment, elle faisait tellement de bruit avec son ding, ding, ding tous les jours. On lui dit, hé, t'es bien gentille, Hina, mais peut-être il faut que tu descendes sur la terre pour aller montrer aux hommes comment fabriquer cette étoffe. Hein? Mais en redescendant, elle était accompagnée d'un oiseau qui avait mangé les graines de cet arbre-là. Et c'est lui qui a semé dans nos îles, les graines de banyan. Pour moi, Maëva, c'est une des Hina, tu vois, qui continue, qui perpétue cet art. Et en voyant le travail de Maëva, je suis venue avec elle et puis je lui ai demandé, j'ai dit, écoute, depuis le temps que tu fais du tapas, tu as dû amasser un tas de connaissances, tu vois. Et c'est comme ça qu'elle me transmet certaines choses sur le tapas.
J'ai ma fille. Tout est né maintenant. Non, pas épané. Ah, il y a encore.
Maëva, qu'est-ce qui lui manque encore?
Les couleurs. Il y a les tapas qui sont colorés avec le jus de l'écorce du caoutchouc et avec le gingembre jaune.
Chaque couleur a une signification. Par exemple, quand elle parle du tapas jauni au curcuma, le curcuma, c'est une racine, un rhizome, on va dire. Un rhizome qui servait, par exemple, aux anciens prêtres à se badigeonner avec. Et donc, le curcuma servait à porter les demandes, les prières vers les dieux. Il y a une généalogie des plantes chez nous. Donc le père, qui est le dieu Athéa, il est le père de toutes les plantes. Mais chaque plante a une femme, est une femme. Tu vois? Et dans cette femme, c'est cette femme qui va transmettre. Et c'est pour ça que donc, la transmission qui se faisait avant du tapas,
ce sont les femmes qui faisaient cette transmission.
Est-ce que vous apprenez, vous aussi, Mareva, de Toutana?
Oui, des légendes que je ne connaissais pas.
Ouais.
Elle m'en a dit, parce que dans ma famille, ma maman, elle ne raconte pas les légendes. Il n'y a que ma grand-mère.
Moi, quand je sens, quand, par exemple, j'ai fini de battre le tabac, et puis quand je le sens, alors là, il y a des choses qui me reviennent, par exemple, de mes grands-parents. Il y a toutes ces choses-là qui me reviennent. Donc, aussi, ça sert aussi de lien. Ces savoir-faire-là continuent à lier.
Ils continuent à vous habiter, et aussi, pour certains, paraît-il, à vous envoyer des messages.
Tout à fait. On est dans ce monde-là. Surtout quand vous travaillez comme ça, comme Mareva, tu vois. Elle est tellement imbibée de ce savoir-faire que j'ai dit, bon, ben, il y a tous ses ancêtres qui sont là, qui continuent à lui donner ses connaissances.
Mareva, donc, il va bientôt partir en France, représenter son île, représenter cet art.
Avant qu'elle parte, je vais certainement m'atteler à une protection pour elle. Hein? Ça veut dire que du moment qu'elle va quitter Fatouiva et au moment où elle va arriver en France, il y aura ce temps où il faut la protéger. Quand elle va amener ce savoir-faire là-bas, il faut qu'elle l'amène entièrement et qu'après elle va transmettre là-bas. C'est ça un de mes travaux pour elle. En demandant à nos ancêtres, peut-être que je vais faire un rituel avant qu'elle quitte Fatouiva. Hein?
Chez les Marquisiens, en Polynésie, des savoirs pour ne pas disparaître.
Et Sarah nous invite à la suivre, à gravir l'escalier jusqu'à son grenier où elle range dans une malle tous ses trésors. Magnifique coffre en bois, du bois de santal.
Voulez comment bien protéger le papa.
Ça, c'est du tapa qui est prêt à être dessiné.
Ouais. Extrêmement lisse. Hein.
Voilà.
2-3 mètres. Hein. Il ressemblerait presque à un parchemin.
Tout à fait, oui. Ouais. Bon, les anciens, eux, ils écrivaient là-dessus. Ben, nous, on dessinait. Étant donné qu'on avait interdit le tatouage sur la peau, étant donné tous les Marquisiens étaient pratiquement tatoués, parce que pour être un homme, un toit, il fallait avoir des tatouages. Eh ben, on a interdit sur la peau. Que faire avec tous ces motifs? Eh ben, on a mis là-dessus. Et voilà pourquoi nos tapas sont aujourd'hui décoré.
Voilà, on les tend au sol. Voilà, un magnifique tapa qui se déroule devant nos yeux. Alors au départ, le tapa était un pagne.
Un pagne. Lorsqu'une femme mettait au monde un bébé, eh ben, elle avait un paquet de... On lui préparait, la mère, la grand-mère, préparait des paquets de tabac. Mais c'est surtout avec la racine de banyan. Hein. C'était le seul vêtement pour se couvrir.
Alors quand vous racontez ça, vous faites tous les gestes. Du coup, on a vraiment l'impression de se replonger à moins de 1000 ans. Puis ça pouvait aussi servir évidemment d'accessoire, de pagne de séduction.
Pagne de séduction, c'est le fameux tapas parfumé qu'on appelle le Aéopipi. Je l'ai utilisé, un tapas parfumé. Ça, on attend quand c'est la saison du fleur qu'on appelle le Hinano. Lorsque c'était en fleur, là, on commençait à
à battre les racines, les jeunes racines de banyan. Parce que lorsqu'il est sec, ce tapa, lorsqu'il est sec, il a un parfum assez spécial. Et ensuite, alors on le trempe dans le jus de curcuma. On étale bien, on sèche à l'ombre, on en fait beaucoup. Et ensuite, on étale la poudre de santal dessus. On étale très bien et après on laissait sécher. Et lorsqu'il était sec, on mettait les fleurs. Alors, les fleurs du pandanus qu'on appelle hinano, du jasmin, fameuse fleur symbole des marquises, du ylang ylang, toutes les plantes qui servent à parfumer.
Alors, adolescente, vous portiez même le tapa pour votre mari?
Oui, ben lorsque j'ai connu Montane, c'était une grand-mère qui avait préparé un panier de aeo, aeo pipi qu'on appelle. Ce tapa servait vraiment à une chose, c'était recueillir la vie, c'est-à-dire le sexe de l'homme qu'on nettoie pour recueillir la vie. C'est tout. Le lendemain, on allait laver ça à la rivière. Le aeo ne sert qu'une fois. Hein. Mais il n'y a que Fatoeva qui a gardé. Hein. Sur toute la Polynésie, le savoir-faire du tapa.
Pourquoi? Comment?
Nous avons continué. On est tellement loin des autres îles. Vraiment loin. Hein. Il faut mériter pour venir à Fatoeva. On n'avait pas beaucoup de linge. C'est comme ça qu'on a gardé le tapa. Peut-être que Fatoeva retient tout ça à son mana pour garder tout le savoir-faire du tapa.
C'est finalement un livre de mémoire.
Oh, j'aime bien ça. Un livre de mémoire, oui, de nos anciens. Mon plus ancien tapa, il est au musée, parce que j'ai peur de le garder. Il est au musée, très, très vieux, qui date de ma grand-mère.
Chez les Marquisiens, en Polynésie.
Là, on pénètre dans cette pièce, vous ouvrez un placard où l'on découvre voilà, ce tapa qui est
le meilleur tapa, le plus beau tapa. Il est d'une finesse, il est rare. Même les fibres de derrière. Et ces vieux motifs-là, ce sont les motifs qui étaient surtout sur les gravés, sur les bambous qui servent, et les flûtes. Les flûtes. Alors vous avez tous ces motifs. Ça c'est la femme. Et ça c'est un dessin qu'on retrouve surtout qu'on met sous les aisselles là. C'est ce qu'on appelle le po-i-i, le bigorneau. L'intimité de la femme là.
Le sexe de la
voilà,
femme.
Sexe de la femme. Mm-hmm. Voilà. Ceci. Ça, c'est un mille-pattes. Et le mille-pattes, dans ma famille, représente un gardien. C'est pas des gardiens.
Protecteur?
Un protecteur, peut-être. Voilà. Et là, vous avez des oiseaux. Tous ces motifs nous relient un peu à tous nos ancêtres.
Hein. Ils racontent toute l'histoire de votre île, livre de mémoire, livre d'histoire. Ah oui. Là, c'est pas « Oh mon beau miroir », c'est « Oh mon beau tapa ».
Tout ce que nos anciens nous ont laissé, et qu'il y en a beaucoup qui sont partis, qu'on n'a pas pu le faire vivre, reprendre, hein, et qu'aujourd'hui, on est reconnu quand même en tant que Marquisien, que nous avons notre hymne, nous avons notre langue, nous avons notre culture, l'identité, notre l'hymne des Marquises même. Tote fe nua e nata atu.
Quand vous chantez, vous avez les larmes aux yeux et en même temps, il se dégage une force incroyable.
Oui, les îles Marquises, levez-vous. En tant que Marquisien, on est fiers d'être.
Vous êtes des guerriers, des guerrières.
des toits. Ça, c'est...
À 10 000 km de là, les mêmes sons de battage, d'écorce, dans la forêt amazonienne de Guyane. Ici, ce sont les hommes qui fabriquent les vanneries et les ciels de case. Ces rondelles de bois représentent les esprits protecteurs des Indiens Wayana. Nomades, ils ont été sédentarisés depuis les années 50 dans des villages français et ont perdu peu à peu leur savoir-faire. Aujourd'hui, les anciens tentent de sauver cette tradition au cœur de leur cosmogonie.
Voyage en terre d'outre-mer. Une série d'Anne Pastor sur France Inter.
Nous, les Amérindiens, on marche trop vite et pieds nus aussi.
Des savoirs pour ne pas disparaître.
Et voilà Mimi Sikou qui doit avoir plus de 70 ans et véritablement en train de courir dans cette forêt.
Ça, c'est une plante. C'est une liante plutôt, avec des épines. Donc on fait le tabouret avec et ciel de case.
Chez les Amérindiens, en Guyane.
Voilà, on a à nos pieds quelques tiges d'aromans verts qui vont nous servir ensuite à la vannerie, puisque c'est la plante maîtresse. On va donc l'éplucher par la suite, retirer son écorce. Et puis à l'intérieur, c'est blanc et ça nous servira à la fois à faire les tamis, à la fois les couleuvres, les paniers, tous les éléments de la vannerie traditionnelle wayana.
La forêt nous donne, la nature nous donne tout. C'est pour ça que moi, j'aime bien, au niveau des contes, transmettre des contes à notre jeunesse, notre culture, la tradition, etc. Et afin que nous préservons notre culture. On voudra toujours vivre comme on a toujours fait, vivre avec la forêt, la nature, tout ce que la nature nous donne. C'est vrai qu'on a, on a encore nos savoir-faire. Sauf que là, je sens que voilà, ça commence comme vous. On va bientôt perdre tous nos savoir-faire. Il faut faire très très attention. Moi, j'ai tout le savoir, sauf que voilà, je vieillis, le temps passe. Lorsque je ne serai plus là, qui va le montrer à nos jeunesse?
Vêtu d'une simple tunique blanche et limée, le sourire aux lèvres, Mimi Sikou semble avoir 200 ans. Son regard se perd dans cette forêt millénaire dont il aurait gardé la mémoire. C'est lui qui veille à l'avenir de ses traditions à Antekumpata. Depuis Maripasoula, il faut compter 3 heures de navigation sur le fleuve Maroni pour atteindre ce village de quelques centaines d'Indiens à quelques kilomètres à peine du Suriname et du Brésil. Et quand la pirogue s'échoue sur la berge, après avoir traversé les rapides, il faut encore gravir un chemin escarpé pour voir les premières maisons sur pilotis au toit de palme et l'école Wayana. C'est ici que Mimi Sikou, depuis 2 ans, anime un atelier de vannerie. Voilà, Mimi Sikou avec ses élèves.
Okay.
Et il dit à chacun de ses élèves de prendre une tige d'aroumant pour maintenant l'éplucher. Voilà, il est en train de disposer tout le monde autour de cette petite table. Et il y a 2, 4, 6 garçons.
Oui, elle
est. Et là, il est en train de lui dire, tu vois, comment on fait. On prend cette tige-là, on la croise, la lève, et on prend l'autre tige à l'horizontale. Et il lui dit maintenant, à toi de jouer. Tu as aussi toujours cette transmission un peu par imitation. Ouais, on regarde exactement. Les autres. C'est d'ailleurs moderne, hein, des cours de transmission et d'artisanat, parce que finalement, avant, c'était plutôt les grands-parents, et c'était plutôt en regardant.
Pendant que les hommes travaillaient aussi, avec, comme il n'y avait pas l'école, mais que les enfants, ils apprenaient directement avec les parents.
Il faut absolument apprendre auprès des anciens. Voilà. Je m'appelle Marie Fleury et je suis ethnobotaniste au Muséum national d'histoire naturelle. Et je suis aussi présidente du conseil scientifique du parc amazonien de Guyane et présidente de l'association GADEPAM, donc on a créé aussi pour essayer de préserver toutes ces connaissances traditionnelles autour de l'artisanat traditionnel, mais aussi des plantes médicinales. Voilà.
D'accord.
Par un effet miroir, leur donner, redonner une certaine confiance en eux, parce que malheureusement, souvent, ils ont perdu aussi une certaine estime de soi, et redorer leur image en leur disant « mais c'est très intéressant ce que vous faites et toutes vos connaissances sont très riches ». On essaye vraiment d'aller dans le sens de cette transmission active vers les générations futures.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
C'est amusant d'entendre quand même compter en français.
Oui. Le compte chez nous, c'est muet. Il y a, on peut dire par les doigts, 1, 2, 3, 4, 5.
Et puis un peu plus loin, dans le carré des activités traditionnelles, il y a Mossinine qui lui est avec les plus grands et qui propose aussi un atelier de vannerie.
Il y a 3 personnes qui sont en train de
de préparer des tamis. C'est les hommes qui font des vanneries pour les femmes, pour leurs femmes.
Ah voilà, là, le jeune homme, lui, fait un tamis.
Un tamis, oui. Tamis pour de la farine de manioc.
J'ai 21 ans.
Ouais.
Moi aussi, je ne connais pas bien comment faire le tissage. Ici, il y a nos parents qui ont besoin de ça pour le tamis, pour faire du cachet ou d'autres choses. Ouais, moi, je voulais apprendre pour aider mes parents. Je ne veux pas perdre aussi ma culture.
La confection de cet artisanat sous-entend une connaissance très fine des plantes, des lianes, très difficiles à reconnaître, des écorces d'arbres, voilà, qu'il faut absolument trouver en forêt, reconnaître, cueillir. Et puis, il y a quand même essentiellement l'aroumant qui est à la base de toutes les vanneries, donc tous les objets du quotidien qu'utilise la femme pour transformer cette plante nourricière qu'est le manioc et lui permettre d'être à la base de l'alimentation et de la boisson, puisque bien sûr, il ne faut pas oublier le cachiri, la bière de manioc qui est extrêmement importante aussi au niveau social. Donc l'aroumant, bien sûr, c'est une plante qui est, du point de vue matériel, extrêmement importante, puisqu'elle sert tous les jours pour fabriquer ces objets de la vie quotidienne. Alors, dans la mythologie, effectivement, c'est intéressant, puisque lorsque, après la première destruction du monde, parce que Dieu, en colère, avait détruit le monde, décide de recréer l'humanité, eh bien, il tresse l'homme avec l'aroumant, en fait, en vannerie. Et donc, on voit bien le lien, là, entre la vie matérielle, mais aussi la vie spirituelle, la représentation qu'ils ont de la nature, et puis le monde naturel qui les entoure. Et le symbole est important, parce que la vannerie, c'est à la fois solide, mais en même temps, ça a une durée de vie très limitée. Hein. Vous voyez, ils sont obligés de remplacer ces objets... Donc la vie de l'homme, elle est parallèle à cet aroumant, c'est-à-dire que autrefois l'homme était à l'image de Dieu, et puis là, maintenant, Dieu crée un homme à l'image de l'aroumant, c'est-à-dire avec une durée de vie limitée, on va dire, avec sa fragilité, à la fois sa solidité, sa fragilité, voilà.
Il y a un des élèves qui pose une question. Comment tu fais ça?
Tu vois ce que je vois ici, avec cette école d'ici, pour éduquer les enfants, c'est bien de faire ce travail et que si on n'apprend pas, on risque de perdre notre tradition.
Cet art de la vannerie et des ciels de case est devenu le symbole de la culture guyanaise. Mais c'est au cœur de cette forêt amazonienne qu'il prend sa source, comme ici à Talouen, au bord du fleuve Maroni.
Chez les Amérindiens, en Guyane.
Bonjour. Bonjour. Une vie ici allongée, paisible. Parfois extrêmement difficiles, avec leur paillage sous le drapeau français qu'on aperçoit d'ailleurs devant l'une de ces maisons et au loin une case toute bleue, celle de la gendarmerie sur le fleuve du Maroni, tandis que passent au loin des pirogues et en particulier celle des orpailleurs clandestins. Un des gros problèmes ici que l'on rencontre dans les villages amérindiens, conjugué à cette jeunesse qui revient après quelques années au collège à Maripasoula, qui a été coupée de sa famille à l'âge de 10-11 ans et qui souvent revient en échec, sans diplôme et qui ne sait pas quoi faire. C'est pourquoi Aïma Opaya tente de transmettre cette tradition pour qu'ils ne perdent pas le lien avec les ancêtres et leur culture et qu'ils puissent trouver leur voie, parce qu'il faut dire qu'ici, à Talouen, il y a près de 95% de la population qui est au chômage.
On va travailler sur ces trois ciels de case ce matin. Là, on va mettre du noir. Et puis, au bout de 30 minutes, une heure, je vais commencer à tresser.
Depuis petit, j'étais déjà inspiré par ça. Comme j'étais élevé par mon grand-père, j'étais souvent à côté de lui. Donc, j'ai commencé à tresser très jeune, à fabriquer des ciels de case très jeune aussi. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans ma vie pratique actuellement.
Ce ciel de case qui est fabriqué traditionnellement par les Wayana et les Apalaïs uniquement, représente donc sur un disque de bois qui est normalement fait en contrefort de fromager, un des plus grands arbres de la forêt, et représente donc un certain nombre d'animaux mythiques, mythologiques, etc., mais qui appartiennent vraiment à l'univers hein, Wayana, hein, puisqu'ils considèrent que ça fait vraiment partie de leur environnement. Et donc, ce sont des animaux qui ont une symbolique très importante. Et quand ils sont représentés sur ce ciel de case, en fait, il y a un rôle un peu protecteur de la société. On va enchâsser ce ciel de case au sommet du Tukushipan, donc de ce grand carbet communautaire hein, qui rassemble la population du village lorsqu'il y a des fêtes traditionnelles et des rites de passage. Et donc, ce ciel de case est là pour protéger, en fait, contre tous ces influences néfastes que peuvent représenter ces esprits de la forêt, toutes ces entités qui sont à la fois redoutées et respectées. Il faut noter que les femmes, par exemple, n'avaient pas le droit de regarder ces motifs. Sinon, ces animaux représentés risquaient de s'attaquer, par exemple, au fœtus et tuer le fœtus. Et donc, évidemment, on a un petit peu peur en même temps de ces ciels de case.
Là, je trace, je fais des frises. Sur le ciel de case.
Et qui raconte en fait toute l'histoire du peuple Wayana.
Voilà, oui, il y a plein de motifs qui ont servi justement le chamanisme à être en liaison avec le monde des esprits, quoi, le monde surnaturel. Donc des animaux sont souvent représentés sur le ciel de case et sont des animaux sacrés normalement. Le jaguar, la chenille. Là, c'est poisson, le tamanoir et le poisson, moulokot et le paco. 6 principaux motifs.
Et aujourd'hui, vous êtes devenue vraiment une grande référence en matière d'artisanat, de ciel de case. Le musée du Quai Branly, vous avez même commandé à l'inauguration un grand ciel de case d'1 mètre de diamètre. Et aujourd'hui, justement, vous avez à cœur d'essayer de transmettre aux plus jeunes afin qu'ils ne perdent pas justement leur culture, leur identité.
C'est vraiment mon devoir, quoi. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour la communauté, notamment pour la jeunesse. Justement de les remotiver sur plein de choses parce qu'il n'y a pas que le ciel de case, il y a aussi les vanneries, il y a aussi le métier de la terre, donc les poteries, tout ça. Il faut montrer maintenant ce que nos valeurs, même si l'apprentissage se faisait assez tôt chez nous, mais maintenant c'est le contraire parce que là c'est, quand ils reviennent c'est déjà 16 ans, 17 ans. Sont adolescents, donc voilà. Et maintenant, il faut les prendre comme les petits. Puis il faut dire, bon voilà, il faut travailler, il faut faire ça, il faut faire ça. Après, c'est comme je dis, c'est un devoir des parents aussi.
Il faut que tu étales plus la peinture.
J'essaie d'apprendre en ce moment. J'essaie de le faire tout seul. Regarde, j'ai fait un tout petit.
Tu as quel âge ?
J'ai 24. Normalement, je devais être à Cayenne à l'université, mais comme j'ai pas d'appartement, j'ai pas d'autre solution de revenir ici.
Comment tu te sens maintenant ici ?
J'ai pas de travail. Bon, la plupart des jeunes n'ont rien en fait. Dans la journée, ils ne font que traîner, d'aller jouer au foot, de boire. Le ciel de cage m'empêche d'aller vagabonder dans le village, d'aller me saouler en face, de faire des bêtises et tout. Ça me permet de garder l'espoir en fait.
Tenez, ok. Tenez, panto.
C'est triste de voir ces jeunes désœuvrés qui rentrent chez eux, puisqu'ils ont, ils sont partis toute la période où ils auraient dû apprendre à faire une pirogue, à aller chasser. Il faut quand même bien connaître la forêt, ne pas se perdre. Donc s'ils n'ont pas eu cet apprentissage-là, ils rentrent au village, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi ? Alors, ils ont l'impression qu'il n'y a rien à faire. Donc c'est un échec dans notre société et dans leur société aussi. Ils sont aussi une certaine forme d'échec. Et l'artisanat peut être une porte d'entrée pour réapprendre ses connaissances. C'est pour ça que l'école Wayana, pour moi, c'est vraiment un espoir et c'est vraiment un exemple à suivre. Et demain, c'est ça qui leur permettra de s'en sortir.
Si on ne se mobilise pas, je pense que d'ici 20 ans ou même un peu plus, je pense que les Wayana ne sont plus comme les Wayana d'aujourd'hui. Bon, la peau va rester, ça c'est sûr, mais dans la tête, il n'y aura rien. Quoi.
Alors, Aïma Opaya se bat pour sauver son peuple qui aujourd'hui vit au rythme de l'acculturation et de l'assimilation, à commencer par l'école de la République française, officiellement symbole d'intégration. C'est ce que nous découvrirons la semaine prochaine dans Voyage en terre d'outre-mer. C'était un documentaire d'Anne Pastor réalisé par Clément Baudet, au montage Édouard de Pernoat, assisté de Maréva Jacquard, au mixage Rémi Quincé et à la programmation musicale Chewbacca. Did you ever want it? Did you want it back? Tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Cette émission sur franceinter.fr. Merci à Paul Ouameau, Thomas Mouzard et Michel Charleux. Ce programme a reçu le soutien en Polynésie d'Air Tahiti Nuit et de l'Office du Tourisme, en Guyane, d'Air Caraïbes, Air Guyane et Evaneos. Le voyage continue sur France Inter.